SBS Radio.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Eh bien, c'est toujours un mois particulier, ce mois d'avril-mai, avril-mai, pour l'Australie avec Anzac. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir dans les studios Gilles Prilot. Vous êtes archéologue de la Première Guerre mondiale. On va en parler. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez fait une découverte impressionnante il y a 4 ans. Parlez-nous-en. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à en parler, à vous avoir ici même à Melbourne.
Oui, c'est vrai, le temps passe vite et quelque part, que de chemin parcouru en 4 ans. En fait, l'histoire commence il y a 4 ans, on est à la fin de l'année 2013 et l'hiver 2013-2014. J'habite un petit village qui s'appelle Naour, au nord d'Amiens, dans le département de la Somme. Je suis archéologue et un jour, la municipalité se vient vers moi en me demandant de les aider à préciser un petit peu la datation du souterrain qui caractérise ce village. Il y a un vaste réseau souterrain en fait, qui date de la fin de l'époque médiévale. Alors bon, j'accepte tout à fait cette invitation. Et puis, lors de mes fouilles, je découvre quelques pièces de monnaie, quelques morceaux de poterie qui attestent de l'occupation de ce site pendant le XVIIe siècle. À la limite, l'histoire pouvait s'arrêter là.
Certes.
et juste un jour, j'ai eu juste l'idée comme ça d'observer par curiosité les parois du souterrain avec ma lampe torche. Et j'ai découvert des inscriptions par centaines et centaines. Les murs, certains secteurs sont recouverts d'inscriptions faites au crayon de bois. Alors au début, j'étais assez circonspect. Je ne savais pas bien vraiment ce que j'avais trouvé. Je voyais bien des dates. Je voyais l'Australie, l'Angleterre, des choses comme ça. Donc, très rapidement, j'ai bien vu qu'il s'agissait de vestiges, de traces de la Première Guerre mondiale. Mais c'est bien après que j'ai compris leur importance.
D'accord. Quand on parle de traces, bon, c'est pas des graffitis. Vous avez pu lire quoi ? Il y avait des messages. Quelles sont les inscriptions qu'on peut voir aujourd'hui sur ce lieu ?
Alors, c'est ça qui est vraiment, vraiment très, très particulier. Ces soldats ont laissé des traces sur de toutes petites surfaces, c'est-à-dire sur le terrain géologique de ces souterrains, c'est de la craie, donc c'est une roche très friable. Alors, sur des 4-5 cm de côté, les soldats, avec leur couteau, ont préparé la paroi, ont lissé la paroi avec leur couteau, et ensuite, avec un crayon de bois, vont indiquer énormément, vous laissez énormément d'informations pour qu'on soit sûr qu'un jour on puisse les identifier. Ça, c'est vraiment très très curieux.
Donc il y a des noms, il y a des matricules, il y a
matricule, numéro de régiment, origine, ville, parfois adresse postale, et tout ça ramassé dans quelque chose d'extrêmement petit. Alors ça, c'était ce qui était très très surprenant. Et puis il y a une fragilité derrière ces traces, puisque juste avec un mauvais geste, un coup de doigt, on peut effacer ces traces. Donc tout de suite, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait mettre en place un dispositif de préservation de ces vestiges.
D'accord. Dans tout ça, vous avez dit Angleterre, France, Australie. Donc l'Australie était bien présente, mais en grand nombre en plus.
En très grand nombre. À ce jour, nous avons répertorié 3200 inscriptions de la Première Guerre mondiale dans le souterrain de Naour et 2200 relèvent de soldats australiens. Pour les autres nationalités, on a quelques Français en début de guerre. Mais alors là, on voit très très bien le rapport à la trace que veulent laisser ces soldats en fonction de leur nationalité ou de leurs origines culturelles. Les Français sont chez eux. Mmh. Alors du coup, on a quelques traces françaises, mais on a un Jean Dumoulin du 9e Zouave. Et bien entendu, c'est absolument impossible d'identifier ce soldat parce qu'il n'a pas laissé assez d'informations.
D'accord.
Après, on a beaucoup d'Anglais. Alors le souci pour les Anglais, c'est que les archives anglaises, une grande partie ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, on a des Canadiens, des Américains, des Indiens d'Inde, des Sud-Africains, pour certains.
Ils faisaient tous partie du corps britannique, quand même. Parce qu'à cette époque-là, c'était tout le corps britannique. Il faut bien rappeler aux gens qui ne savent pas, les Australiens se battaient sous le corps britannique, les Indiens sous le corps britannique. C'était le corps britannique.
Bien entendu, bien entendu. Et si vous voulez, on est dans ce secteur-là, on est dans ce qu'on appelle le faisceau australien. Et c'est ces Australiens qui ont traversé les océans à bord de bateaux, vont passer par l'Égypte, par, bien sûr, par Gallipoli pour beaucoup. Puis Marseille, on va remonter, on va traverser toute la France, on va s'émerveiller de la beauté de la France. Ça, c'est vraiment, ce sont des témoignages qu'on a, qu'on revoit. C'est un sentiment très fort pour les Australiens de voir une France aussi verte. Mmh. Et puis
malgré la guerre.
Malgré la guerre, parce qu'on est loin de la guerre, à Marseille, on est très très loin, et puis très rapidement confronté à l'enfer des tranchées, notamment pour la bataille de la Somme. La plupart des Australiens qui ont laissé leur nom à Naour ont participé à la bataille de Pozières, Mouquet's Farm, c'est vraiment des lieux de bataille très, très connus pour les Australiens.
Vous avez été capable de retracer certains de ces soldats, même jusqu'à ici, ou est-ce que ça devient vite compliqué en fait ?
Non, c'est là où ça prend... C'est une dimension que j'ai pas vu venir, si vous voulez. C'est que... Parfois, j'aime l'image l'idée d'avoir un crayon dans les doigts, et puis de quelque part d'être un peu le prolongement de cette signature qu'ont laissé ces soldats, et d'aller jusqu'à un contact avec les familles. C'est-à-dire que j'ai eu des contacts à des familles, j'ai rencontré des familles. Pour certaines, ont fait le voyage depuis l'Australie.
Ils ont été capables de voir l'inscription ?
Ah, bien sûr, je les ai invités à le faire. Alors, grâce aux médias, très rapidement, les médias australiens ont parlé de cette découverte. J'ai publié aussi un livre qui a permis aussi de faire connaître cette découverte. Et là, c'est ce sens très fort lorsque on rencontre des descendants. Et c'est là où je me suis aperçu de la puissance que pouvait représenter tout ce qui concerne cette page de l'histoire australienne. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. J'ai vu des tas d'Australiens, mais vraiment pleurer au premier degré devant ces traces. Et des enfants même, des collégiens. Un jour, j'ai accueilli une dizaine de collégiens, des musiciens australiens, de voir des gamins de 13-14 ans, 3 ou 4, en train de pleurer comme ça devant un paroi. J'ai deux fils. Je peux vous dire que je ne peux pas les imaginer s'émouvoir devant un patrimoine comme
ça. Est-ce que ça, justement, si on s'arrête 30 secondes là-dessus, parce que moi, ça fait 15 ans que je suis ici, ça m'émeut encore une fois de tous les ans à Anzac Day, si on va au Shrine of Remembrance, on voit des jeunes, mais qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Et ça, c'est en France, on le voit pas forcément. En fait, je vais pas dire qu'il y a un oubli, parce que c'est pas vrai. On l'apprend dans les livres d'histoire, etc. Mais ici, il y a un devoir du mémoire qui est presque inné chez les jeunes. C'est incroyable, même à voir.
Bien sûr, je vais pas vous apprendre que la Première Guerre mondiale, l'Anzac est quand même un des fondements, un des piliers de l'histoire australienne.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas dilué. Ça a pas été perdu au gré des années. Oui. C'est pas devenu un système où il y a des héros, mais on ne sait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, les jeunes qui ont 12, 13, 14 ans, ils savent exactement ce que ça veut dire.
Mais oui, parce que c'est le niveau 1 de l'histoire australienne. Alors qu'en France, alors c'est assez bizarre, mais on a une plus longue histoire, le champ de bataille est sous nos pieds. Alors peut-être qu'il y a aussi un sentiment de résilience chez les Français, de vouloir oublier ce champ de bataille. Il ne faut pas oublier qu'au lendemain de la guerre, c'est 3,5 millions d'hectares de terres agricoles qui sont ravagées. À la minute où je vous parle, il faut se rappeler qu'il y a encore dans le sol de la terre entre 200 et 250 millions d'obus non explosés. Mmh. 8 siècles encore de travail pour les démineurs en France. 600 000 soldats sont encore sur le champ de bataille qui n'ont jamais été retrouvés. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose en France où peut-être, moi c'était mon opinion, il y a eu peut-être une volonté très rapidement après la guerre, une volonté de vouloir oublier comme un résilient.
Alors, pour comprendre l'importance de ça, il faut aussi comprendre ce qui se passait sur la bataille et sur les champs de bataille, et que ces soldats-là n'étaient pas forcément là pour se battre. Ils étaient là pour se reposer, se relaxer. Il y a tout un processus derrière. Il ne faut pas penser que les soldats étaient à 100% du temps pendant 4-5 ans sur la bataille.
Oui, exactement. Alors, en dehors des périodes vraiment où ça, entre guillemets, ça canarde très très fort, là les soldats n'ont pas la possibilité de pouvoir être remplacés. Très rapidement, on va mettre en place un turnover assez régulier, assez important. 15 à 20% du temps des soldats est consacré aux positions de première ligne, puis en ligne de renfort, en ligne arrière, puis en phase de repos. Donc quand les soldats sont dans ces périodes de repos, eh bien, il faut les entraîner, on fait des parades, on fait des exercices militaires, on occupe la troupe, comme dirait l'autre, on fait des compétitions sportives. Et puis il y a aussi tout le côté un petit peu plus lié au loisir, des spectacles de théâtre, de musique. On organise des bibliothèques qui permettent de pouvoir emprunter des livres et de se tenir un petit peu au courant. On distribue des journaux. Et puis, on visite les curiosités locales, les châteaux, les cathédrales, pour celles qui sont encore debout, en tout cas celles à l'arrière du front. Et à Naour, mon village, là où j'habite, qui était connu déjà pour ses souterrains, eh bien, les soldats vont venir visiter. Ce sont des visites organisées par et pour les soldats. Alors, je peux le prouver parce que j'ai retrouvé à ce jour 11 extraits de diary, ces petits carnets de personnel de soldats, où on fait mention de visites. On visite les cavernes de Naour. On mentionne la présence de guides et de transport, de navettes. Donc c'était vraiment organisé pour distraire les soldats, de prendre une heure ou deux, un peu de bon temps. Moi, je les imagine souvent en train de fumer une cigarette, de rire, de se faire peur, parce qu'il y a pas mal de chauves-souris dans le souterrain, et puis on regarde ça.
Un amusement simple, en fait.
Oui, simple. Alors, il faut vous imaginer que quand on est dans le souterrain, c'est vraiment, bon, bien sûr, une atmosphère dans la pénombre, et c'est très silencieux. On est sûr qu'on est à 20 km du front, donc on est sûr que quand on était à l'extérieur du souterrain, on devait entendre loin le grondement des premières lignes. Là encore, c'était, à mon avis, une possibilité de complètement échapper, de s'échapper complètement pendant une heure ou deux. Et on regarde sa montre, et puis il est déjà l'heure de partir, et on va laisser une trace et qui, pour moi, quelque part, est, je veux qu'on se rappelle que je suis passé ici. Peut-être que ce jour est mon dernier jour. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du testamentaire, puisque on décrivant une trace que j'ai bien en tête ici, c'est une date en juillet 1916, le nom et le prénom du soldat, son numéro de matricule, son numéro de bataillon, la ville d'où il vient, Lismore, Australia, et tout ça ramassé sur 5 cm de côté. Il y a vraiment quelque chose d'important dans cette volonté d'imprimer sa trace et son passage dans la pierre.
Est-ce que vous avez été capable de voir quand tout ça a commencé, quelle est la première inscription et presque pourquoi, je veux dire, que pourquoi ça a pris, parce que je suppose qu'il y a eu des bataillons qui sont allés un après l'autre, etc. Donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre, c'est presque devenu une tradition pour les bataillons qui venaient visiter le lieu.
Oui, oui, tout à fait. Bon, alors, hormis les Français en 1915, on n'a pas de traces en 14 véritablement. On a des traces bien avant la guerre. Et c'est surtout, c'est juillet 1916. Mmh. Hein, c'est vraiment le gros des inscriptions, c'est cette période-là. C'est la Somme, c'est Pozières. On va avoir d'autres, une autre vague en 17, et ça s'explique naturellement, et un petit peu fin 17 et 18. Mais le gros des concentrations sont 1916, c'est la bataille de la Somme. Et puis voilà, il y a quelques, tout à l'heure vous me parliez d'identifier des personnages ou des personnalités. Parmi les 2200 inscriptions australiennes, j'ai à ce jour identifié avec certitude plus de 500 soldats australiens. J'ai écrit les biographies de 350 d'entre eux, dont certains ont des parcours, des destinées, mais juste hallucinants.
Mmh. Est-ce que vous avez été capable de retrouver des photos? Peut-être de personnes en train d'être dans la galerie, en train d'écrire. Est-ce que ça existe? Parce qu'on est au début de la photographie, mais on s'amuse aussi avec la photographie pendant la guerre.
Ça doit exister.
Quelque part, ces photos.
Je suis vraiment preneur. Il n'y a qu'un seul cliché connu d'une troupe australienne à Naour. Voilà, il n'y a qu'une seule trace photographique connue à ce jour. Donc, je sais peut-être qu'il y a un trésor qui
quelque part.
Quelque part dans une famille. Que j'espère beaucoup. Mais donc, quoi. Sinon, j'ai récupéré des photographies. Bon, parler des archives militaires, il faut quand même souligner que la qualité des archives militaires australiennes est exemplaire. C'est le top du top. Mmh. Parce que, si vous voulez, c'est pas seulement. Quand j'identifie un soldat, je ne récupère pas seulement sa fiche militaire. Le gouvernement australien a fait scanner l'intégralité des documents qui relèvent de ce soldat. Donc parfois, je découvre 60, 70, 80, 90 scans. Donc vous avez parfois la copie du télégramme qui annonce la mort du soldat à la mère ou à l'épouse. Le retour de l'épouse qui dit « Je prends note de la mort de mon mari et je voudrais savoir si je peux récupérer l'alliance qui m'a été donnée par mes parents, etc. » Donc très, très rapidement, on va bien au-delà de la trace. J'ai l'impression l'impression, parfois, de manière un peu imagée, l'impression de passer derrière le mur, quand on arrive à aller à identifier ces soldats. Donc, beaucoup de familles ont eu la gentillesse de me faire parvenir des documents d'avant-guerre ou après-guerre, quand les soldats, heureusement, beaucoup d'entre eux vont survivre et repartir au pays. Et là, je trouve ça très touchant de revoir ces Australiens après la guerre, dans leur ferme. J'ai l'image d'Alan Stewart McPherson sur le perron de sa ferme en train de battre du beurre, alors qu'il a été un vrai héros de guerre, blessé à plusieurs reprises. Il va gagner tous ses galons de sergent, capitaine, il finira major. Et puis, il va repartir tout simplement en Australie et faire son activité de fermier. Voilà, il y a cette dimension humaine vraiment qui est très forte dans cette découverte. Elle n'est pas que mémorielle, elle n'est pas monolithique comme parfois on peut avoir cette sensation devant les mémoriaux, les cimetières, que naturellement que je respecte absolument. Mais là, c'est une façon un peu plus vivante d'aborder cette page de la guerre, c'est le loisir de ces jeunes gars, quoi, en fait, parce que la plupart sont vraiment de jeunes bonhommes. Quoi.
On peut visiter l'endroit, ou c'est vraiment sur invitation, il faut montrer patte blanche avec vous?
Non, c'est très très important.
Je prends votre 06,
non? Oui, je vous laisserai. La cité souterraine de Naour se visite, alors c'est ça qui est incroyable. Il y a environ 50 000 personnes qui visitent le site tous les ans, et jusqu'à ma découverte il y a 4 ans, personne n'avait vu ces graffitis parce que l'éclairage dans le souterrain est fait en basse tension. Donc en fait, quand vous vous promenez le long des galeries, même à 30 cm de la paroi, vous ne les voyez pas. Si vous n'avez pas une torche électrique, vous ne les voyez pas. Alors aujourd'hui, on propose au public qui est intéressé des visites spécifiquement orientées autour des graffitis. Il faut réserver, c'est pas plus cher qu'une visite, mais c'est juste pour que les collègues de la cité souterraine s'organisent. Et bien sûr, oui, donc on visite. Il y a de plus en plus d'Australiens qui viennent voir la cité souterraine. Naour est maintenant inscrit dans le chemin de mémoire australien. Donc ça fait partie maintenant des points, pas incontournables, mais en tout cas que l'on peut visiter en Australie. Et il y a un engouement croissant.
Alors le tourisme, justement, autour du devoir de mémoire de la guerre en Australie, c'est quelque chose qui monte en flèche.
Oui.
C'est incroyable d'ailleurs.
Oui. Et c'est intéressant parce qu'il y a une vraie demande d'aller voir autre chose. Bien sûr, quand les Australiens viennent dans la Somme, maintenant c'est Villers-Bretonneux, le centre John Monash qui est extraordinaire. Oui, bien sûr, mais on a besoin aussi d'autres choses.
Absolument.
Quand on vient à Naour, on passe l'après-midi, il y a un petit restaurant, tout ça dans un parc magnifique, les oiseaux chantent, on est dans quelque chose de très très bucolique, très très sympathique, et ça plaît énormément au public australien.
C'est incroyable. Vous qui êtes archéologue, la région là-bas, ça va être j'allais dire une mine d'or presque, parce que comme vous le disiez, il y a encore tellement dans les sols, dans les sous-sols, ça va être pour vous, même au niveau de l'esprit, quelque chose d'incroyable de penser qu'il y a encore tellement à découvrir.
Ah oui, vous vous rendez compte.
Des générations.
Rien que pour la dépollution pyrotechnique, c'est 8 siècles encore. 600 000 soldats qui sont encore sur le champ de bataille. Donc je présente ce soir, justement, à l'Université de Melbourne, cet aspect. Parce que comment peut-on imaginer avoir perdu 600 000 hommes? Et je vais décliner justement un certain nombre de situations. En fait, ça va de corps complètement déchiquetés par le fracas des bombes, le blast des explosions, jusqu'à des sépultures provisoires, de véritables charniers, et puis des situations parfois surréalistes, comme une chaîne humaine réalisée par des soldats, avec 20 soldats qu'ils vont former une chaîne arms in arms, bras dessus. Voilà, plein de choses comme ça qui permet aux archéologues, non pas de renouveler ce qu'on connaît dans l'histoire, le travail des historiens est exemplaire, mais apporte une petite pierre qui est celle du fait, du factuel. On connaît tous les récits et tout ça, mais au final, on ne s'intéresse pas beaucoup à la vie quotidienne dans les tranchées en première ligne. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de savoir comment on gère les toilettes, les latrines, comment on gère les poubelles. Et les poubelles, c'est ce qui fait le bonheur des archéologues pour toutes les périodes. Ouais, dites-moi ce que vous mettez dans votre poubelle, je vous dirai qui vous êtes. Mmh. Et au final, c'est à travers ce regard un petit peu décalé que l'on peut apporter modestement notre petite pierre à l'édifice de la connaissance de la Grande Guerre.
Ouais, j'ai une dernière question pour vous, elle est comme d'une certaine ampleur, mais est-ce que vous pensez qu'en France, on réalise à quel point des pays comme l'Australie ont fait un sacrifice à la fois humain, mais aussi matériel, mais notamment humain? Aujourd'hui, en France, on n'en parle pas tant que ça. Moi, je veux dire, quand j'ai étudié en l'école française, l'Australie, c'était une ligne dans un petit tableau dans mon livre d'histoire. On n'a pas vraiment déployé ça. Mais on ne se rend pas compte à quel point un pays comme l'Australie a fait des sacrifices énormes pour la liberté en France
et
en Europe.
Mais oui, vous avez raison. Pour être tout à fait franc, il y a eu un avant et un après commémoration du centenaire.
Ouais. Donc ça change.
Oui, ça change beaucoup. Vous savez, il y a encore à peine 10 ans, vous preniez n'importe quel Français dans la rue, vous lui demandez quels sont les mots-clés de l'Australie, c'est capitale Sydney, l'invasion des lapins, etc. Enfin, je veux dire, on est sur des grands clichés comme ça. Aujourd'hui, grâce, mine de rien, aux commémorations, les Français, les Samariens, les habitants du département de la Somme, franchement, ont vraiment pris la mesure des Australiens. Maintenant, ils savent où est véritablement la capitale et que l'Australie ne se résume pas à une vaste terre qui a été envahie par des lapins, bien entendu. Non, et il y a de vrais liens de fraternité qui sont là depuis très longtemps. Alors, j'étais à l'université de Canberra pour un colloque Beyond Villers-Bretonneux. Mm-hmm. C'était vraiment très intéressant, notamment Colin Nettlebeck qui a fait un point sur l'histoire très longue qui unit et qui désunit, mais qui unit nos deux pays. C'est une longue histoire de fraternité et je crois qu'aujourd'hui, elle a pris tout son sens grâce aux commémorations.
Alors, malheureusement, on doit conclure, mais où est-ce qu'on peut retrouver plus d'informations sur tout ce que vous avez pu faire, ce que vous avez mentionné, il y a un livre que vous avez écrit.
Oui.
Où est-ce qu'on peut trouver un peu tout ça?
Alors, d'abord, sur Internet, vous tapez la cité souterraine de Naour et vous aurez, disons, toutes les informations pratiques, horaire d'ouverture, le prix, etc. Mm-hmm. Il y a également une possibilité de pouvoir visiter virtuellement le souterrain si on veut se faire une idée, donc directement sur le site de la cité souterraine. Alors, effectivement, je suis co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle Silent Soldier of Naour, qui a été édité en Australie. Mais également l'année dernière en français un ouvrage aux éditions Michalon sur les archives de combattants dont je suis l'auteur avec de très très belles photos d'un photographe qui s'appelle Dominique Bossu et puis tout simplement vous tapez sur internet Gilles Prilaux PRILAUX et vous trouverez pas mal de vidéos, de reportages qui ont été réalisés par différents médias depuis 4 ans
Ça a changé votre vie ça, non? Un petit peu?
Ben, je suis là aujourd'hui. Écoutez, il y a 4 ans, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais pu être invité en Australie pour parler de ce travail. Ben oui, c'est fantastique. Je suis heureux.
Ouais, bravo. Merci.
Merci beaucoup.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.